Ouvrir notre Bible ce soir dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 12, et nous lirons au verset 23e. Premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Et dans les versets qui suivent, vous pourrez redécouvrir la liste des hommes des tribus d'Israël qui se sont rendus à Hébron afin d'établir David comme roi. Et au nombre de ceux-là, nous lisons au verset 32, des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Et je voudrais attirer votre attention ce soir sur ce que l'Esprit de Dieu précise concernant les fils d'Issacar. Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. J'aimerais, dans un premier temps, dans cette méditation, montrer ce qu'est l'intelligence des temps. Qu'est-ce que c'est pour un chrétien que d'avoir l'intelligence des temps? On peut traduire aussi discerner les temps. Et hier soir, je vous ai dit que le texte hébreu dit littéralement connaître le discernement pour les temps, pour connaître ce que devait faire Israël. Discerner, c'est voir à travers. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est apparent, au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on entend, au-delà de ce qu'on peut constater, on perçoit la réalité plus profonde. Discerner les temps, c'est aller au-delà de ce que je peux voir dans le monde pour y découvrir derrière tout cela une réalité bien plus profonde. Discerner les temps, c'est donc la capacité spirituelle, je dis bien spirituelle, de connaître la nature exacte de l'époque dans laquelle nous sommes, mais par rapport à la personne de Dieu, par rapport à la nature de Dieu, par rapport aux pensées de Dieu, par rapport aux intentions de Dieu et à ses plans. Au fond, avoir le discernement pour les temps, l'intelligence des temps, c'est être capable, avec l'aide du Seigneur, de connaître à quelle heure de l'histoire de l'humanité nous nous trouvons, au-delà des simples faits qui se déroulent sous nos yeux, et agir, être, faire, comme Dieu l'attend, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son peuple, et vis-à-vis de nos semblables qui sont perdus. Nous verrons ce soir, et ce sera le thème de la soirée, que le monde n'a pas l'intelligence des temps. Par contre, il peut y avoir un danger pour les chrétiens c'est de se limiter à une connaissance intellectuelle des choses. C'est-à-dire que, connaissant quelques textes de l'Écriture, je peux dire, tiens, effectivement, se déroule sous nos yeux l'accomplissement de certains textes bibliques. Il peut y avoir un autre danger pour le peuple de Dieu, c'était une espèce de curiosité intellectuelle concernant les prophéties bibliques. Il y a des chrétiens qui sont friands de ça. Et il suffit qu'on fasse une mission sur les prophéties des temps de la fin et on fait des salles pleines. Mais quelle est la conséquence de tout ça dans ma vie? Dieu ne m'appelle pas à une connaissance intellectuelle des choses seulement, mais avoir le connaître, le discernement pour les temps, je le répète, c'est une connaissance spirituelle. C'est-à-dire que percevant tout ce qui se passe actuellement dans le monde à la lumière de la parole de Dieu, il va y avoir comme conséquence dans ma vie une nouvelle dimension avec le Seigneur, dans ma relation avec lui, un développement de ma qualité de vie spirituelle, un développement de mes relations fraternelles et une formidable passion pour les âmes. Dieu va allumer dans nos cœurs une véritable passion pour l'évangélisation. Si j'ai l'intelligence des temps, je ne peux pas avoir les yeux secs devant mon fils qui se drogue et qui déballe vers l'enfer.
C'est vrai.
Si j'ai l'intelligence spirituelle des temps, le fardeau de mon peuple, zigane ou sédentaire, va être là de plus en plus pesant sur ma vie. Comment avoir l'intelligence des temps et ne pas se mettre à genoux devant Jésus dans les larmes, en disant nous sommes sauvés et une nation entière est perdue. Nous sommes sauvés et l'Europe est en train de mûrir pour l'Antéchrist et va déballer vers l'enfer. Comment avoir l'intelligence des temps et ne pas se dire, Seigneur, il faut que les choses changent dans ma vie.
Amen.
J'ai besoin qu'un feu nouveau s'allume.
Amen.
Seigneur, souffle sur nos églises.
Amen.
Déverse un torrent de feu,
Amen.
Le feu de l'Esprit. Donne-nous de prendre feu, Seigneur, et que nous allions vers les autres avec sagesse, mais avec flamme.
Amen.
Pour leur parler de l'amour de Jésus.
Alléluia.
Pour leur dire que Jésus les aime et qu'il a payé le prix fort en mourant sur une croix entre deux brigands couronnés d'épines, des clous dans les mains et dans les pieds. C'est pas une erreur de l'histoire, c'est pas une erreur judiciaire. Il était venu pour cela. Et chaque goutte du sang de Jésus qui coule de ses blessures jusqu'à terre te dit qu'il t'aime.
Alléluia.
Que l'enfer c'est terrible.
Amen.
Qu'il a laissé le ciel, il est devenu un homme et il est mort sur une croix pour que ce soir tu dises pardon pour le garçon que je suis, pardon pour la fille que je suis, pardon pour le mari, pour l'épouse que je suis. Seigneur, ma vie c'est un fiasco, je viens à tes pieds, pardon, sauve-moi. Lave-moi dans ton sang, purifie-moi de mes péchés, transforme ma vie, brise mes chaînes. Oui, le Seigneur est capable de faire des miracles par la puissance de son esprit. Alors ce soir, et ce sera une évidence pour chacun de nous, chrétiens, oui, le monde païen n'a pas l'intelligence des temps. Et comment pourrait-il l'avoir? Seul le cœur qui vit près de Dieu peut être éclairé. J'aimerais vous parler dans un premier temps de la génération d'hommes qui ont vécu dans les premières pages de la Genèse et vous parler de la génération d'Enoch. Alors ne cherchez pas, je vous lis quelques versets du chapitre 5 de la Genèse. On va commencer par le premier homme, Adam. Adam, âgé de 130 ans, à ce moment-là, il y avait une longévité de vie impressionnante, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Et alors, vous lisez la suite du chapitre 5, c'est pas très passionnant, je vous l'accorde, mais c'est la parole de Dieu, donc elle reste merveilleuse. Dans cette liste, voilà le bilan que j'ai fait, parce que homme après homme, le Saint-Esprit rédige les versets de la même manière. Vous avez le nom de l'homme. Ensuite, la parole de Dieu précise l'âge de cet homme à la naissance de son premier enfant. Ensuite, le nombre d'années qu'il a vécu après la naissance de ce premier enfant. Le fait qu'il eut encore des fils et des filles. Le nombre total des années de sa vie. Et enfin, sa mort. Et vous lisez tout le chapitre 5, c'est comme ça, nom après nom. C'est exactement le même triste refrain. Le résumé que je fais de ça, c'est que dans la génération-là, il y avait la personne, il y avait la famille, et ça n'allait pas plus loin. C'était ça leur vie. Ils étaient arrivés sur la terre, portait un nom, s'occupait de la famille, puis mourait. Et je me suis dit, sans parler d'impiété, sans parler de vie désordonnée, de péché, on laisse ça de côté, est-ce que certains chrétiens ne vivraient pas ainsi aujourd'hui? Ils ont un nom, se marie, un premier enfant, d'autres enfants peut-être, ils vivent un certain nombre d'années pour leur famille et ils meurent et c'est tout. C'est ça un chrétien? Et alors, au milieu de cette liste qui est quand même, je dirais, une liste noire, subitement, émerge quelqu'un, et pour lui ça va être complètement différent. Il s'appelle Enoch. Si vous cherchez un prénom pour un garçon, là vous trouvez. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Bon, jusqu'alors, c'est comme les autres. Il a un nom, et on sait à quel âge il a le premier enfant. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu. Là, il y a quelque chose qui émerge dans ce chapitre 5 et qui n'a rien à voir avec tout le reste de cette génération. Un homme se distingue parce qu'après la naissance de son premier enfant, et ne me demandez pas pourquoi, et ne me demandez pas comment ça s'est fait, la Bible ne dit rien. Ce que je sais, c'est qu'après la naissance de ce premier enfant, quelque chose s'est passé dans sa vie qui le distingue de toute sa génération. Il a eu une relation avec Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Et il a marché avec Dieu. C'est-à-dire que chaque instant de sa vie était vécu en présence de Dieu. selon le conseil de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il marchait dans une intimité avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans, puis il mourut. Non, ça c'est pour les autres. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Donald G., docteur de la Pentecôte à l'échelle planétaire dans les dizaines d'années passées, parlant d'Enoch, disait qu'il vivait dans une telle intimité avec le Seigneur, il marchait tellement près de lui qu'un jour Dieu l'a emmené jusqu'au ciel. Amen. Enoch a marché avec Dieu. Quelle différence dans le résumé de sa vie. Dieu y est au centre. Et je le répète, il marche avec Dieu et au terme du voyage, il n'y a pas la mort, mais il y a l'enlèvement et il y a la vie éternelle. Alors je sais bien que les chrétiens depuis des siècles meurent dans la foi, meurent dans le Seigneur. Il est possible que nous mourions. Moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement. La mort, je ne sais pas vous, moi ça ne m'intéresse pas particulièrement. Ce n'est pas agréable de mourir, je pense, même quand on est chrétien. Je connais des chrétiens qui disent « Oh, mais vous savez, frère, moi j'ai pas peur de la mort. » Mais quand ils ont 36,6 de température, ils appellent les spécialistes. Alors, je ne sais pas si nous mourrons. Ce que je sais, c'est que Jésus est à la porte. Et qu'il y a un événement que nous attendons, c'est le retour de Jésus dans les airs. Parce que ça, la Bible en parle, la Bible s'est jamais trompée, je ne vois pas pourquoi elle se tromperait là-dessus. Et le Seigneur, en un clin d'œil, en une fraction de temps qu'on ne peut pas mesurer, va enlever son Église et l'introduire dans son ciel de gloire. La Bible appelle cela l'enlèvement. Et ceux qui marchent avec le Seigneur vont connaître ça. Alors, il est possible que les choses tardent encore un peu et que nous mourions, mais de toute façon, au bout de notre voyage, ce n'est pas la mort, c'est la vie éternelle. Amen. Et il est important que nous ayons le discernement des temps. Parce que au sein d'une génération qui ne vit que pour la famille, les choses de la terre, et je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est une erreur. C'est une erreur s'il n'y a que ça. Au milieu de toute cette génération qui ne vit que pour les liens affectifs, un homme se distingue. Et je crois qu'il est le type de l'Église fidèle de Jésus-Christ. Il marche avec Dieu, et au bout de cela, il y a son enlèvement avec le Seigneur. Dans l'épître de Jude, ne cherchez pas, il y a quelque chose de plus qui nous est mentionné pour Enoch. Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Incontestablement, Enoch avait l'intelligence des temps. Il a reçu une révélation concernant la venue du Seigneur et ses jugements. L'esprit prophétique reposait sur Enoch. Il y avait sur cet homme-là un attouchement du Saint-Esprit et du ministère de l'Esprit. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que nous pouvons entrer, nous aussi, au contact du Saint-Esprit pour avoir l'intelligence des temps. En parlant de la venue du Saint-Esprit, Jésus a dit Il vous conduira dans toute la vérité, il vous rappellera ce que je vous ai dit, il vous enseignera, mais Jésus a dit aussi, il vous annoncera les choses à venir. Là, il n'est pas question de voir les choses à la télévision, au journal télévisé. Il est question de ce que le Saint-Esprit va mettre dans mon cœur. Il vous annoncera les choses à venir. Il y a là une dimension spirituelle extraordinaire, c'est l'intelligence des temps. Je crois que pour accéder à l'intelligence des temps, le peuple de Dieu a deux possibilités. La première est surnaturelle, la seconde est naturelle. La première surnaturelle, c'est que pour nous introduire dans l'intelligence des temps, Dieu va se servir des ministères prophétiques. Il a donné à l'Église des prophètes, et ces hommes, possédant un don spirituel qui s'appelle une parole de sagesse, peuvent annoncer pour le peuple de Dieu les choses à venir. Je reprends un exemple. Quand l'apôtre Paul est logé à Césarée chez l'évangéliste Philippe, Agabus descend de Jérusalem. Agabus est un prophète. Arrivant dans la présence de l'apôtre Paul et de ses amis, le prophète Agabus prend la ceinture de Paul, il se lie les mains et les pieds, et il donne à Paul l'intelligence des temps, ce qui va lui arriver. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront à Jérusalem, et le livreront aux mains des païens. Donc il y a des moments où, pour son Église, Dieu va se servir de l'esprit prophétique pour introduire son peuple dans l'intelligence des temps. Soit pour une vie, un foyer, l'avenir d'une Église locale, ou des événements mondiaux. Je me souviens d'un culte à Caen, lorsque j'étais encore pasteur. Nous vivions le temps de Sainte-Seine, donc il y avait là des centaines de croyants qui étaient debout, partageant le pain et le vin, et un frère de l'Église n'a pas prophétisé, parce que la prophétie, le don de prophétie, n'annonce rien à venir. Le don de prophétie édifie, il exhorte et il console, c'est tout. Si quelqu'un annonce des choses à venir, c'est pas le don de prophétie, c'est une parole de sagesse. Et ce frère a donné une parole de sagesse. Et je l'entends encore. Il a dit, tenez-vous informés. Regardez dans le monde. Il va survenir très bientôt un événement qui va bouleverser l'histoire de l'humanité et qui va tout changer. Ça, c'était pas un don spirituel au ras des pâquerettes. Hein. 15 jours après, les deux tours de New York tombaient. Ça, c'est l'esprit prophétique qui introduit le peuple de Dieu dans l'intelligence des temps. La seconde voie est naturelle. Dieu va se servir de sa parole. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans l'Écriture et qui nous projettent dans ce qui va arriver ou dans ce qui arrive déjà. Et je pense entre autres à ce texte de l'apôtre Paul dans la première épître à Timothée, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et il parle de ce qui va se produire, les bouleversements au niveau de certaines églises, et de certains croyants. Je n'ai pas besoin de révélation surnaturelle dans ce moment-là. La lecture de la parole de Dieu me permet d'entrer dans l'intelligence des temps. Je le répète, il y a donc deux voies. Une surnaturelle, les ministères prophétiques. L'autre naturelle, la parole de Dieu. La génération d'Enoch n'a donc pas eu l'intelligence des temps. Je voudrais lire pour vous, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 38, là, C'est d'autant plus important que le résumé de cette histoire est fait par Jésus lui-même. Et nous allons parler de la génération de Noé, qui elle non plus n'a pas eu l'intelligence des temps. Jésus dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Il n'y a pas eu l'intelligence des temps, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Que nous enseigne Jésus ? Que la génération de Noé est une génération qui a mené une vie de routine. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Voilà, c'est ça la vie. Mangeons et buvons. Demain nous mourrons. Une vie de routine. Malgré la présence de Noé, qui avait eu une révélation, qui avait eu l'intelligence des temps. Malgré la présence de la famille de Noé, malgré le témoignage de Noé, il a été prédicateur de la justice, malgré les œuvres de Noé. Parce qu'au milieu de cette génération qui ne se doute de rien, qui mène une vie de routine, manger, boire, se marier, marier ses gosses, il y a un homme, un seul, avec sa famille, qui va avoir l'intelligence des temps. Dieu va lui révéler que le monde va être jugé à l'échelle planétaire à cause de sa violence, de sa corruption, de sa méchanceté, de son iniquité. Et Dieu demande à Noé de construire une arche. Ça a demandé des dizaines d'années. Un fou, qui va construire un bateau là où il n'y a pas d'eau. Un fou. Alors, planche après planche, Monsieur Noé et ses trois fils construisent l'arche. Ça a demandé des dizaines d'années. Vous pensez bien que les gens sont venus voir Noé et lui ont posé des questions. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu la tête? Et Noé a été un prédicateur de la justice. Il a dit, moi je crois en Dieu.
Amen.
Dieu est vivant. Amen. Il est notre créateur. Nous sommes faits pour vivre avec lui. Nous sommes faits pour vivre pour lui. Et votre vie, à vous, est complètement en marge. Vous vivez dans la corruption, dans la violence, dans l'iniquité, dans la méchanceté. Vos pensées sont mauvaises du matin au soir. Tournez-vous vers Dieu. Changez de vie. Et ils ont ri. Ils ont ri. Ils ont continué leur vie. Ils ne se sont doutés de rien. Et l'arche a été terminée. Et Dieu a dit, maintenant tu rentres dans l'arche. Et pour être sûr que ça ferme bien et que personne n'ouvre, c'est Dieu qui a fermé la porte. Lisez bien Genèse 6. C'est Dieu qui a fermé la porte. Quand un homme ferme la porte, on a encore l'espoir qu'elle peut s'ouvrir. Mais quand Dieu dit « c'est fini », c'est fini. Alors, ils ne se doutèrent de rien. Puis il y a eu des nuages. Puis le ciel est devenu noir. Il a commencé à pleuvoir. Et ils ont ri. Ils ont dit « tiens ». Noé veut nous faire croire que une petite averse, ça fait longtemps qu'il a plu. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui dans nos villes, on n'a pas de mal à croire que le déluge a existé. Parce qu'en quelques heures aujourd'hui, des villes sont sous l'eau. Alors aujourd'hui, on est obligé de prendre la Bible au sérieux. Et même les journalistes, à la radio, à la télévision, emploient les mots bibliques. Un déluge! Il a plu 40 jours et 40 nuits, et les sources du grand abîme en bas se sont ouvertes. On n'a pas de mal à réaliser que l'arche a commencé à flotter. Et là, je vais vous dire des choses qui ne sont pas écrites, mais on peut les imaginer. Les gens. Ouvre-nous, Noé! Ouvre-nous! Ouvre-nous! Il y avait des gosses de ton âge. À l'époque, ils auraient dit, ah, l'évangile, tiens, je préfère ma Game Boy, mon iPhone. Et les gosses se sont dit, mais le pasteur avait raison. Et la famille du pasteur, elle avait raison. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Alors les plus courageux sont montés certainement sur le toit des maisons, mais l'eau a tout submergé. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Qu'il faut avoir l'intelligence des temps, parce que Jésus a dit. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La Bible parle de la patience de Dieu qui se prolongeait au jour de Noé. Reconnaissez aujourd'hui que nous sommes dans une génération en Europe, on va parler de notre continent, où les gens ne se doutent de rien. On mange, on boit, on se drogue, on se marie, on marie ses enfants. Et le pasteur vient parler du Seigneur. La bonne blague, le bon Dieu, l'évangile. Au mieux, on dit, je verrai ça plus tard. Seulement, quand le Seigneur va revenir, en un clin d'œil, ça va être terrible. Parce que le mari, il va chercher sa femme. Il va l'appeler dans toutes les pièces de la maison. Il va même appeler le pasteur pour dire, est-ce que vous n'auriez pas vu mon épouse par hasard? Mais ça ne répond pas chez le pasteur non plus. Et il va voir d'autres chrétiens, et les maisons sont vides. Et le jeune de 14 ans qui n'a jamais voulu se donner au Seigneur, il va chercher ses parents. Et là, subitement, le Saint-Esprit va rappeler à son cœur un certain vendredi 8 septembre à Montpellier, où un certain Balière a parlé de ça. Et il va se dire, mais moi, à 14, 15, 16 ans, mais qu'est-ce que j'ai fait dans cette réunion? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû donner ma vie à Jésus.
Amen.
Je ne suis pas en train de vous prêcher de la rigolade. Je vous parle d'avoir l'intelligence des temps. Une intelligence qui devrait ce soir te pousser, mon garçon, ma fille, à dire oui à Jésus.
Amen.
Ami, c'est ta première réunion, c'est ta deuxième réunion, c'est ta cinquième réunion. Tu n'es pas au milieu de farfelus. Tu es au milieu d'hommes, de femmes qui croient Dieu sur parole. Dieu a toujours dit vrai. Il ne nous a jamais trompés. Il a toujours dit la vérité. Jésus revient enlever son église. Et je vous le dis, parce que quand ça va arriver, même si vous en riez aujourd'hui, demain vous direz, il avait raison, des millions de gens. Vous apprendrez qu'ils ont disparu de la planète en un instant. Jésus sera revenu.
Oui,
il aura enlevé son église.
Amen.
Avoir l'intelligence des temps, sans vivre comme la génération de Noé, c'est nous démarquer de tout ce qui nous entoure et qui est mauvais pour fuir une vie de routine, une vie chrétienne tiède, stérile, et puis nous amener près du Seigneur pour dire, Seigneur, maintenant, il nous appartient de vivre dans ton intimité, dans ta communion, dans ta parole. Je crains qu'une fraction de l'Église aujourd'hui, même si elle n'est pas plongée dans des péchés grossiers, une fraction de l'Église aujourd'hui vit une vie chrétienne tiède, stérile, avec des compromis avec le monde. Des chrétiens aujourd'hui ne se doutent de rien. Ils ne discernent rien. C'est triste de le dire, mais des chrétiens aujourd'hui mangent, boivent raisonnablement, mais mangent, boivent, se marient et marient leurs enfants. Un point, c'est tout. Mon frère, ma sœur, il est temps de revenir vers le Seigneur ce soir.
Alléluia.
j'aimerais vous parler de la génération de Lot. Et là encore, c'est Jésus qui en parle. Écoutez bien. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Tiens, il n'est pas dit qu'ils se mariaient, qu'ils mariaient leurs enfants. Il y a longtemps qu'on avait balayé ça dans une société où il y avait l'homosexualité à outrance. Et vous remarquez que pour Lot, la génération ne parle plus de mariage. On vit. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Manger, boire, décidément, les affaires, le commerce, on achète, on vend, il plantait, il bâtissait, les maisons, les terrains. Et puis, quand je lis ailleurs dans la Bible, l'impudicité, l'homosexualité. J'ouvre une parenthèse, puisqu'il y a la théorie du genre dans nos écoles aujourd'hui. On impose à nos enfants la pourriture dans nos écoles. Deux mots sur l'homosexualité. Quand une société en arrive là, au point où on était la société de Lot, où on banalise les choses à ce point, nous sommes à une chute de civilisation. Ça a été la chute de la civilisation de Sodome et Gomorre. Ça a été la chute de l'Empire romain. Ça a été la chute de l'Empire grec. Et ce sera la chute de notre civilisation actuelle. Quand on arrive au stade là, de ce péché-là, normalisé, banalisé, alors nous touchons le fond. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu.
Oh, Dieu.
Nous aimons toutes les créatures humaines, mais nous haïssons le péché. Et c'est pas pareil. Alors la génération de Lot, eh bien, c'est une génération qui vit pour les choses de la terre. Et vous remarquez aussi, vous qui connaissez votre Bible, que cette génération n'a aucune intelligence des temps. Et la génération de Sodome et de Gomorre ne se doute de rien. On vit dans le péché, mais d'une façon dégoûtante, outrancière. Et il y a un homme dont Dieu a pitié à cause d'un tonton qui prie pour lui. Parce que s'il n'y avait eu que le neveu, je ne donnais pas cher de son salut. Mais quelque part, un homme très âgé, un oncle, qui lui a l'intelligence des temps, est à genoux, et il prie, et il plaide, et il plaide, et certainement il pleure pour le neveu qui a fait un choix complètement fou d'aller mener sa vie au milieu de la pourriture. Alors c'est vrai que la Bible dit qu'il tourmentait son âme juste. Mais s'il avait vécu ailleurs, il n'a pas eu besoin de la tourmenter. C'est comme si vous regardiez des cochonneries à la télévision et que vous disiez ensuite à votre femme quand même, le monde où il en est. Arrête. Alors Dieu a pitié du neveu et il envoie deux anges sous forme humaine. Les anges entrent chez Lot et lui annonce un message de grâce et de jugement, parce que le trône de Dieu est un trône d'équilibre. Et les anges sont venus dire à Lot, écoute, tu ramasses ce que tu as quelque bien, jeune, fils, fille, et tu sors de là le plus vite. Tu sors de là le plus vite, parce que nous sommes envoyés pour détruire Sodome et Gomorre. Électrochoc dans le cœur de Lot. Il va trouver ses gendres, et la Bible dit, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Tiens, le beau-père, il a perdu les pédales, quoi. Il fait une crise mystique. Il paraît que notre ville va être détruite par le feu. Aux yeux de ses gendres, il paraît plaisanté. Va trouver ses filles, va trouver sa femme, puis on prend son temps. On prend son temps, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'on fait, mais au lieu de partir, on prend son temps, on reste, au point que les anges disent, mais fais vite. Et il est si peu décidé à partir que les anges sont obligés de l'empoigner pour le faire sortir de Sodome et de Gomorre. Heureusement que le tonton priait. On sent qu'il s'en va, mais à regret, quoi. Il s'en va, mais on sent que Sodome est encore dans son cœur, d'une certaine manière, même s'il ne partage pas le péché, mais il y a quand même la maison, il y a la voiture, il y a la caravane, il y a le salon, il y a la cuisine aménagée, enfin, il y a tout, quoi. Quant à Madame Lot, alors là, elle en sort, mais à reculons. Hein. Et tout en allant vers le salut, tout en allant vers le salut, son cœur est resté là-bas. Oh là là là, ma belle armoire en merisier massif. Et puis quand même mon assurance vie, là. Et à un moment donné, elle n'y tient plus, la pauvre, elle se retourne. Et quand tu te retournes, alors que tu devrais fuir, quand tu regardes par là, alors que Dieu te dit de regarder par là, d'un seul coup, tu vas devenir immobile dans le jugement. Elle est devenue une statue de sel. Quant à Monsieur Lot, avec ses filles, ça ne se termine pas très bien. Il va sortir d'une certaine caverne deux peuples qui vont empoisonner le peuple de Dieu au fil du temps. Voyez-vous, si j'ai l'intelligence des temps, je ne vais pas établir ma vie spirituelle au milieu de la pourriture. Même si je dis, Seigneur, je ne vais pas toucher à ça. On est bien d'accord avec ça. Mais il y a mieux à faire que de planter sa tente à Sodome et Gomorre. Il faut vivre loin du péché, loin de l'iniquité. L'apôtre Paul a écrit dans l'Épître aux Romains, « Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Et il dit, marchons loin, loin, marchons loin. Et il cite toutes sortes de péchés que le peuple de Dieu devrait fuir de toute sa force. Je crois que Madame Lot, c'est le type de l'Église qui va rester au jour où Jésus va venir. Parce que, tout en ayant... en donnant l'impression qu'elle marche dans le salut, son cœur est dans le monde. Elle donne les apparences de quelqu'un qui marche dans le salut avec les autres. Mais seul Dieu regarde au cœur. Tu peux chanter ce soir avec les autres. Tu peux écouter la parole de Dieu avec les autres. Tu peux venir à toutes les réunions de ton église avec les autres. Mais Dieu sait finalement au fond, si tu es avec le Seigneur ou si ton cœur est ailleurs. Dieu regarde au cœur. Et je crois que le temps dans lequel nous sommes et cette mission vont nous permettre de faire le bilan de notre propre vie et dire, Seigneur, il me faut l'intelligence des temps pour que ma vie change. J'en arrive à la génération de Jésus. Et je vous lis dans Matthieu. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Écoutez bien la suite. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Ces hommes religieux qui avaient toujours besoin de choses exceptionnelles viennent à Jésus pour lui demander un signe, voulaient du spectacle évangélique. Et Jésus n'est pas venu pour faire du spectacle évangélique. Il est venu apporter le message de la grâce de Dieu.
Amen.
Et ces hommes-là étaient des champions de la météo. Ils auraient pu faire les 2 minutes avant le journal télévisé de 20 heures. Et Jésus sait qu'ils sont des champions de la météo. Il leur dit, le soir, vous dites demain, il va faire beau, le ciel est rouge. Le matin, vous dites, il va y avoir de l'orage aujourd'hui, le ciel est d'un rouge sombre. Expliquez-moi comment vous pouvez discerner l'aspect du ciel et que vous êtes incapable de discerner les signes des temps. Autrement dit, vous n'avez pas l'intelligence des temps. Vous ne discernez pas les temps. Au soir de l'Ancien Testament, au soir de l'Ancienne Alliance, ils ont levé les yeux vers le ciel et ils l'ont vu rouge. Du sang de l'agneau. Et les prophètes, au soir de l'Ancienne Alliance, ont dit, il va faire beau. La grâce va venir. Ils ont dit, ça va changer. Le ciel est rouge. Et Dieu va visiter la terre avec son Fils. Il va visiter la terre avec une croix. Il va visiter la terre avec le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Oui, il allait faire beau. Parce que le ciel était rouge du sang de l'agneau. Tous les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient ça. Et ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. De leurs investigations, ils ont voulu savoir dans quel temps ça allait arriver. Alors Jésus est là. L'agneau est là. Ça a été probablement l'un des derniers messages de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est là, l'agneau. Dans les traits d'un simple homme, dans les limites humaines comme vous et moi, mais suivez-le sur les chemins de Palestine, derrière lui, plus rien n'est pareil. Les prostituées deviennent des saintes, les vicieux deviennent d'authentiques croyants, les blasphémateurs adorent Dieu, les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Les possédés sont délivrés. Il est en train de faire beau. Il est en train de faire beau. C'est la beauté de la grâce. C'est la beauté du salut. C'est la beauté de Jésus. C'est la beauté de l'amour de Dieu. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et le matin, vous dites, va faire de l'orage, parce que le ciel est d'un rouge sombre. Après le beau temps de la grâce, il y aura l'orage du jugement. Ça, c'est certain. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas en lui, la colère de Dieu demeure sur lui. ce n'est pas un moindre mal que de rejeter l'amour de Dieu manifesté à la croix. Il y aura donc de l'orage, le ciel d'un rouge sombre. Alors si le ciel a annoncé la croix, la rédemption, le sacrifice, au matin du jour de Dieu, le ciel annoncera l'orage des jugements. Et Jésus dit à ces gens religieux, mais vous pouvez discerner l'aspect du ciel et vous ne discernez rien, vous ne discernez pas les signes des temps. Je suis au milieu de vous, les malades sont guéris, les possédés sont délivrés, les gens changent de vie. Comment est-ce que vos yeux ne s'ouvrent pas? Et puis il y a le jour qu'on a appelé le jour des rameaux. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas appelé le jour des manteaux, parce qu'on n'a pas jeté que des rameaux. Mais c'est vrai qu'un manteau, ça coûte plus à jeter sur le sentier qu'un rameau. Alors, imaginez la scène. Il est monté sur un âne, des gens arrachent, coupent des branches de palmiers, d'autres enlèvent leurs manteaux, les disciples ont mis quelques vêtements sur le dos de l'âne, Jésus monte sur l'âne, et il avance vers Jérusalem, et on a autour de l'âne une foule en lief. Les gens crient « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ça y est, c'est le Messie, c'est le Messie !» Ont-ils l'intelligence des temps? Je le souhaite. Et il y a là des accents de joie. C'est formidable. Mais approchez-vous très près de l'âne et regardez-le, le roi. Et regardez-le bien. Il pleure. Un roi qui pleure. Alors que la foule l'acclame. Alors que la foule est en train de dire « Hosanna, sauve de grâce !» Qu'est-ce qui lui arrive? Il pleure. Oui, parce que lui, il a largement dépassé le ciel rouge. Il voit déjà le ciel d'un rouge sombre. Lui, il a l'intelligence des temps. Écoutez-le bien. Il pleure sur Jérusalem. Il est en train de descendre la montagne des Oliviers et il surplombe encore Jérusalem. Et voilà ce qu'il dit dans les larmes. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. En d'autres termes, si tu avais l'intelligence des temps, si tu pouvais réaliser que le Messie est là, que le Sauveur est là, tu n'as plus qu'à venir à ses pieds, à croire en lui, à le recevoir, pour qu'il change ta vie, qu'il fasse de toi un fils de Dieu, une fille de Dieu. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Alors le ciel rouge, le beau temps, c'est terminé. Et Jésus annonce le ciel rouge, sombre, l'orage. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et en l'an 70, quand les armées romaines sont venues saccager Jérusalem, raser le temple, détruire les maisons, les gens ont dû se souvenir de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est arrivé du temps d'Énoque, de Noé, de Lot, de Jésus, dans les jours de sa chair, va arriver pareillement dans la période du retour de Jésus. Je vais terminer avec ce texte de l'Épître de Pierre, c'est dans sa seconde lettre, je vous le lis. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera l'attitude du monde dans la période de la seconde venue de Jésus? Voilà ce que l'apôtre Pierre écrit. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, par des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, c'est comme si Pierre disait, mais ayez l'intelligence des temps, le discernement des temps, sachant avant tout que dans les derniers jours, et nous y sommes, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » J'aimerais tellement que ce soit le langage des païens. Ce ne serait pas rassurant, mais ce serait logique. La moquerie, les railleries, la négation du retour de Jésus. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que c'est le langage des païens ? Parce que voilà des gens qui croient en Dieu, ils parlent de lui. Ils parlent de ce qu'ils connaissent comme des promesses qu'il a faites et qui ne se seraient pas accomplies. Donc ils font référence à la parole de Dieu. Ils font même référence à la création. Ils ne disent pas que nous descendons du singe. Ils croient qu'il y a un créateur et une création. Et ces gens-là se moquent, raillent, et on arrive à un point d'impatience telle et de remise en question qu'ils disent, mais finalement, hein, depuis que les pères sont morts, il n'y a rien qui change. On chante toujours les cantiques sur le retour de Jésus, il n'est toujours pas là. Au début du mouvement sédentaire, Assemblée de Dieu, les pionniers prêchaient que Jésus revenait. On a parlé d'un évangile à quatre roues. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise le Saint-Esprit, Jésus revient. Et puis est venu le mouvement Vieille Lumière, ce souffle de l'esprit parmi le peuple tzigane, et les pionniers de ce mouvement-là ont prêché toutes ces vérités, et le peuple a chanté tout ça. Puis ça fait 80 ans, frère. Il n'est toujours pas là. Et je vous l'ai dit hier, et je vous le redis ce soir, c'est un fait dans nos églises, Il y a des gens qui ne croient plus au retour de Jésus. C'est un fait. C'est un fait. Et quand on y croit, on se dit le plus tard possible. Comme si la vie sur la terre, c'était la meilleure des choses qui puissent nous arriver. J'ose croire qu'il n'y a pas au milieu du peuple de Dieu de moquerie et de raillerie, mais que nous voulons dire, Seigneur, au point où nous sommes arrivés dans cette mission, donne-nous l'intelligence des temps. Donne-nous de connaître le discernement pour les temps, pour connaître ce que nous devons faire. Fais-nous grâce, relève-nous, relève-nous. Et je crois que le Seigneur est disposé à le faire dans sa grâce. Vous le croyez ?
Amen.
On va prier ensemble quelques instants. Notre bon Père Céleste, nous prenons conscience en méditant ta parole que pour ton peuple, avoir le discernement pour les temps n'est pas la moindre richesse spirituelle. Et que nous avons besoin de nous tenir devant ta face pour savoir spirituellement dans quel temps nous sommes et connaître par le Saint-Esprit et ta parole ce que tu attends de nous. Garde-nous d'une vie chrétienne légère, superficielle, faite de compromis, de mondanité, de légèreté. Nous prions au contraire, Seigneur, pour que tu nous aides à chercher les choses d'en haut, à nous affectionner aux choses d'en haut, à nous amasser des trésors dans le ciel. Permets que nous soyons au nombre de ceux qui aiment l'avènement de Jésus et qui s'y préparent. Père céleste, permets que nos églises connaissent un tel souffle vivifiant du Saint-Esprit qu'à l'unisson de l'Esprit, nous dirons « Amen, viens Seigneur Jésus ». Oh, s'il te plaît, agis ce soir dans le cœur d'un garçon impénitent jusqu'à ce jour pour qu'il se convertisse. Agis dans le cœur d'une fille pour qu'elle se convertisse. Agis dans le cœur d'un ami, homme, femme, qui est là au milieu de nous et qui découvre l'Évangile. Touche son cœur par ton amour. Je te prie d'agir dans le cœur d'un frère, d'une sœur dans la foi, découragé, fatigué, rétrograde. Seigneur, souffle dans sa vie et donne-lui le désir ce soir de revenir vers toi de tout son cœur. Je te prie, comme l'homme de Dieu le faisait autrefois, rends-nous à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Nous croyons que nous sommes à l'heure d'un réveil, Seigneur. C'est une question de vie ou de mort pour nos églises. Et je te supplie, du haut de ton ciel, de pencher ton oreille et d'écouter les supplications d'un peuple qui n'est pas meilleur que les autres, mais qui se plonge dans ta grâce,
alléluia,
qui y voit clair,
amen,
et qui souffre de l'état des choses et qui attend des temps de renouveau. Je te supplie de nous faire grâce dans les 3 prochaines réunions à venir,
amen,
que la journée de demain,
amen,
et le culte de dimanche,
amen,
marquent encore de nouvelles étapes dans cette mission. Je t'en supplie, au nom de Jésus. Amen.
Amen.